Je vais parler des choses sérieuses ce matin, comme si je ne parlais pas souvent des choses sérieuses. Je vais vraiment parler des choses sérieuses, il faut que vous soyez attentifs. Autour du thème, vivre d'une manière digne de l'appel de Dieu, une urgence. Vivre d'une manière digne de l'appel de Dieu, une urgence. La vision de Goma Ouest, c'est être une église rayonnante. En quoi? En parole et en acte. Bien-aimé, ce matin, j'aurais souhaité te poser une question. Es-tu en train de rayonner? Et comment rayonnes-tu? C'est à toi de répondre, pas quelqu'un d'autre. Tu es jeune garçon dans ta famille, jeune fille dans ta famille, rayonnes-tu? Tu es un homme marié, rayonnes-tu auprès de ta femme, auprès de tes enfants? Tu es une femme mariée, rayonnes-tu dans ta famille, autour de toi? Tu travailles quelque part, tu élèves étudiants, étudiantes, rayonnes-tu? Notre plan stratégique est arrivé à sa sixième année et bientôt nous allons passer au temps d'évaluation. Le temps de bilan est donc arrivé pour nous rendre compte si nous sommes une église qui, à travers ses membres, rayonne en parole et en acte. Je suis bien fier d'être pasteur de cette paroisse, vous le savez bien. Il y a bien des choses que nous devrions nous féliciter en tant que Chapelle Goma Ouest. Si la CBK a 10 paroisses dont elle est fière, en dépit du fait que nous soyons une chapelle, nous sommes parmi ces 10. Bravo. De 2014 jusqu'à 2019, nous avons démontré à quel point nous sommes capables. Nous avons acheté une parcelle, il y avait une maison, j'ai supplié que cette maison ne la détruise pas. Mais à une assemblée ici, les mamans étaient les premières à dire cette maison, on doit la détruire. Et je me suis incliné, on l'a détruite. Nous étions déterminés à dire, nous allons faire nous-mêmes notre plan et nous allons construire un temple. Et nous y sommes, n'est-ce pas? Nous y sommes parce que nous sommes déterminés d'ici le 25 décembre à être dans ce temple-là pour adorer le Seigneur. Les travaux ont été lancés en octobre 2016. Sur le plan financier, l'engagement à la souscription, à la libération des souscriptions est impressionnant. Quand on regarde la ligne offrande, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, garçons et filles, là aussi c'est impressionnant. Mais il y a encore quelques personnes qui n'amènent pas leur dîme à l'église. Ils se connaissent. Quand je parle, ils se connaissent. Bien des choses dont devons nous féliciter, c'est sur le plan spirituel, c'est que, bien aimé, le service femmes et familles, le ministère de la jeunesse pour Christ, le ministère des couples, les chorales, le ministère d'évangélisation par les centres d'affermissement où certaines personnes s'engagent assidûment à affermir d'autres pour leur dans la foi en Christ, et bien d'autres ministères, les choses marchent bien. Quand je vois même les mines enfants, combien de parents sont fiers d'amener leurs enfants le matin. C'est-à-dire les enfants sont à l'aise, ils sont bien instruits, et les parents sont fidélisés et les enfants sont fidélisés. On peut donc dire que la plupart des ministères, sinon plus, sinon tous, sont bien engagés. Mais, la fois dernière, nous nous sommes retrouvés comme pasteur de Goma Ouest et Goma Vie pour essayer de réfléchir sur le programme du baptême. Nous avons, nous, en tout cas à notre niveau, à Goma Ouest relevé, 6 défis auxquels nous sommes appelés à faire face. Et parmi ces 6 défis, j'ai choisi 2 dont nous allons parler ce matin. Quels sont ces 2? Ils sont ceux dans les chefs de la plupart des membres des hauts et des bas, en termes d'engagement dans la durée pour le Seigneur. Lorsqu'il y a camp biblique, lorsqu'il y a convention, lorsqu'il y a des moments d'évangélisation, les gens s'engagent. Est-ce que je mens? Les gens s'engagent, ils sont touchés par la parole de Dieu, ils s'engagent. Mais quelques temps après, ils se refroidissent. Ils se désengagent, comme ils sont des croyants de la saison. Quand une autre saison va venir, ils vont encore faire quoi? Ils vont encore se réengager. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, il y a une réelle inadéquation entre ce que nous confessons et ce que nous vivons dans notre vie de chaque jour. C'est là que se pose le problème de rayonnement. Nous ne faisons pas encore assez. Je ne dis pas qu'on ne fait rien. Nous devrions faire davantage. En famille, à l'école, à l'université, partout où nous sommes, milieu de travail et d'affaires, on peut donc comprendre que la foi initiale pour certains d'entre nous est restée intacte. Si tu poses la question, Jésus habite en toi. La réponse est oui. Et c'est oui et oui. La foi initiale est restée intacte, mais malheureusement, ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour intégrer dans leur vie des qualités de rayonner ce qu'ils croient. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Alors nous avons lu des textes. Romains chapitre 7, versets 7 à 25. Et 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 15. Dans ces deux textes, je tire directement le verset 14 de Romains chapitre 7. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre où est le problème. Qu'est-ce qui fait que pour certains, ça n'en décolle pas. Dans Romains 7, verset 14, il est dit, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis comment? Je suis charnel, je suis vendu au péché. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul commence en disant, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants. Ça aurait été mieux qu'il parle des enfants, mais il dit comme à des petits-enfants, des nourrissons en Christ. Verset 3, vous êtes encore charnels, puisqu'il y a parmi vous jalousie, querelle, n'êtes-vous pas charnels, et ne vous conduisez-vous pas, on pourrait dire en bon français, et ne vous conduisez-vous pas selon les standards humains. À la lumière de ces versets bien-aimés, peut-on savoir à qui l'apôtre Paul parle? À qui s'adresse-t-il? Aux païens? Non, n'est-ce pas? Pourquoi il stigmatise le fait d'être charnel? Nous rencontrons très souvent des gens qui disent « Mi et ni comme Christ, toi, pas qui m'y dit. Mais qui a ta part? » Parce qu'effectivement, il y a trois catégories de personnes dans l'Église. Il y a ceux qui ne sont pas convertis, pour lesquels il faut une évangélisation individuelle et collective. Ils sont nés dans l'église, ou alors ils ne sont pas nés dans l'église, mais ils sont inconvertis, si ça existe. Il y a un deuxième groupe, les hommes et les femmes charnels. J'essaie de lire la Bible et le Nouveau Testament, tous ces passages où on parle de charnels, on ne parle pas des chrétiens charnels, on parle plutôt des hommes charnels. Mais troisième catégorie, ce sont des spirituels. Donc, Paul ici est en train de s'adresser à des gens qui sont convertis en Christ. Et qui sont ces personnes? Je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 1. Ils sont convertis en Christ. Versets 4 à 8. Vous y êtes? Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ de Jésus. Car vous avez été en lui comblé de combien de choses? De toutes les richesses, toutes celles de la parole et de quoi? Et de la connaissance. C'est que le témoignage rendu au Christ s'est affermi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don de la grâce à vous qui attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Des gens auxquels il s'adresse, mais à qui il s'adresse comme des nourrissons, des petits-enfants dans la foi, ils sont comblés des richesses de la parole et de la connaissance. le témoignage du Christ est bien établi au sein de la communauté corinthienne, comme le témoignage du Christ est bien établi à Goma Ouest. Aussi bien que personne ne manque un don de la grâce. J'étais dans notre cellule hier à Kitukudé. J'ai posé la question à chacun. Quel est votre don? Quel don vous avez reçu? Mais pour éviter qu'il ne soit pas trop muet, ne rien dire, j'ai dit, répondez à vous-même. Comment vous exercez cet don? Parce qu'effectivement, à partir du moment où nous avons reçu le Christ comme notre Seigneur, nous avons tous reçu un don de la grâce. Mais que faisons-nous de ces dons-là? Nous ne sommes pas ici avec des gens qui viennent chauffer les bancs le dimanche. Pendant 2 heures, si ça traîne, il commence à regarder à la montre. Patamalisa Sangabi. Mais si vous avez reçu ces dons, comment l'exercez-vous, bien-aimé? Comment vous mettez en œuvre pour que nous puissions voir que vous avez reçu le salut et sur la fondation, je vais y arriver tout à l'heure, vous êtes en train d'élever le lieu. Dans ces deux passages, il y a donc 3 problèmes fondamentaux que Paul relève et qui devraient amener chacun de nous à s'interroger. Je crois que j'ai dit que je vais parler des choses sérieuses. Chacun de nous à s'interroger dans quel camp il est pour que nous puissions nous engager définitivement sans retour et vivre notre foi d'une manière digne de l'appel de Dieu. Le tout premier problème, c'est que les Corinthiens sont restés malheureusement au statut embryonnaire de la foi. Ceux qui ont été comblés de toutes les richesses de la connaissance et de quoi? Toutes les richesses de la connaissance et de la parole, c'est au milieu desquels le Christ a été réellement affermi et qui ont reçu chacun un don de la grâce, ils sont restés pendant plusieurs années au stade embryonnaire de l'enfant. Ces gens-là ne sont ni enfants, parce qu'on ne dit pas qu'ils sont des enfants dans la foi, mais on dit qu'ils sont des petits-enfants. Si vous lisez dans les textes grecs, des petits-enfants, des nourrissons dans la foi. Quel drame! C'est vrai, il n'y a pas de honte à être un enfant. Mais si cet enfant-là, ça s'accorde avec son âge, n'est-ce pas? Mais si après un certain nombre d'années, on t'appelle comme un nourrisson, c'est comme une injure, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un problème réel. La conséquence, c'est pour relève cette conséquence, c'est que les Corinthiens qui sont restés des nourrissons, des petits-enfants dans la foi, eux qui devaient être spirituels sont restés charnels. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire des hommes du monde dont la pensée est dominée de plus en plus, non par les choses de Dieu, mais par les choses du monde. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a des disputes au sein de la communauté. Il y a de la jalousie. Il y a un esprit de rivalité. Au point qu'il y en a qui disent, nous sommes de Paul, et d'autres disent, nous sommes d'Apollos. Et si vous lisez le verset 12 du chapitre 1, il y en a même qui vont jusqu'à dire, nous sommes de Pierre. Mais au verset 12, on dit qu'il y en a même qui disent que nous sommes de Christ. Il y a combien de divisions? Il y a 4 parties. Il y a le parti de Paul, il y a le parti d'Apollos, il y a le parti de Pierre, il y a le parti de Christ. Paul s'élève avec véhémence pour leur dire trop c'est trop. C'est vrai que Paul a fait quoi? Paul a planté. Apollos a arrosé. Mais il y a une main silencieuse et discrète de Dieu qui a agi. C'est celui-là qui a fait quoi? Alléluia. Donc celui qui est important, ce n'est pas celui qui amène la personne à Christ. Ce n'est pas non plus celui qui a fermé. Mais celui qui est très important, C'est le constat que nous pouvons faire que la personne sur qui on se concentre sont en train de croître. Et c'est ça le jugement que je porte en tant que pasteur. Tous mes collègues avec moi. Est-ce que vous êtes en train de croître? Ou si à un moment donné vous avez commencé à croître, vous avez fait marche arrière, tu as fait 1000 km, tu as fait 10 km et tu fais 1000 km derrière. C'est grave, hein? Et tu n'arrives pas à décoller. Bien-aimé, là où il y a des humains, il ne manque pas de conflits. J'enseigne un cours d'éducation à la paix à l'EFG. Et j'ai un chapitre dans ce cours qui est intitulé « Les conflits ». J'ai dit aux étudiants, le conflit est normal. Il est aussi naturel. Le conflit n'est pas diabolique. Il ne faut même pas prier pour dire « Seigneur, que toute la journée, tu m'aides pour que le diable ne mette pas un conflit autour de moi. » C'est faux. Le conflit est naturel, il est normal. Mais le problème, c'est où? Quand le conflit survient, qu'est-ce que je fais? Pour beaucoup d'entre nous, quand il y a un conflit survient, même un petit conflit entre deux personnes qui s'entendaient bien, alors on cherche le bouc émissaire. C'est lui qui est responsable. On dit, bon, comme c'est lui qui est responsable, moi je me casse. C'est ce que vous dites, vous les jeunes. Moi je me casse. Au lieu de le résoudre, il escalade, devient un grand conflit. Et ceux qui l'apprennent, et aussi en profitent, ceux qui ont l'expertise vont en profiter pour continuer à propager les rumeurs, attiser le feu de la discorde, de la division, et surtout, il n'y aura plus moyen de la réconciliation. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un avec qui tu as un conflit, aujourd'hui, il faut urgemment les résoudre. Autant que cela dépend de toi. Là où la chair domine, il y a la jalousie. Il y a aussi les médisances, des ambitions égoïstes. Toutes ces choses sont inspirées par le diable. Les réseaux sociaux ont aidé beaucoup de gens à répandre des rumeurs. Il reçoit un message, il n'a pas vérifié et il l'envoie directement par Sévéka Goma Ouest. Je pense qu'il y a des gens qu'on doit retirer du groupe. J'apprends d'ailleurs qu'il existe, je n'ai pas encore vérifié, des petites groupuscules ici dans l'église, des médisances. Si vraiment tu fais partie de ces groupes-là, je t'interdis. Au nom de Jésus. Parce que là où la chair s'installe, il y a des choses qui arrivent. Et nous témoignons là que nous sommes des nourrissons en Christ et non des adultes. Deuxième problème. C'est celui qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 3 que je venais de lire. Celui d'avoir trouvé le Christ comme fondement de mon salut. Malheureusement, on construit sur cette fondation avec des matériaux inefficaces. Parce que le texte nous dit au verset 12, on peut construire sur la fondation avec de l'or, avec de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin ou de la chaux. Alors on peut se poser la question, les bois se représenteraient quoi par rapport à 1 Corinthiens 3, verset 12? Bien aimé, les bois représenteraient les conflits non résolus, les disputes, les médisances, les dissensions, les divisions, l'esprit de rivalité, les confluences, les corpuscules dont je viens de parler. Toutes ces choses seront complètement consumées si tu as excellé dans ces choses et tu as construit sur la fondation avec des choses, des œuvres de la chair. La Bible dit qu'au temps de la fin, lors du jugement de Dieu, certains d'entre nous verront leurs œuvres être consumées. Il faut donc que chacun de nous réfléchisse quelle contribution il apporte pour construire sur la fondation. C'est-à-dire des matériaux suffisamment solides, des matériaux capables de survivre au feu du jugement de Dieu. Il faut bien aimer savoir qu'au dernier jour, il y en a qui seront sauvés comme Au travers de quoi? Au travers du feu. Il ne faut pas rester homme ou femme charnel et se contenter de rester à ce stade-là. Il faut avancer. Il faut avancer parce que sinon, tu vas être sauvé comme au travers du feu. Il ne faut pas dire pourvu que je sois sauvé. Non. La Bible dit, ceux-là dont les matériaux vont subsister recevront chacun un salaire, une rémunération, une récompense pour avoir enduré, pour avoir mis en œuvre leur salut et ce salut a produit des effets qui durent même jusque dans l'éternité. Alléluia. C'est ça qu'il faut rechercher. C'est-à-dire que la contribution de chacun est de mettre en œuvre sa foi. Et que cette foi promise, mettre en œuvre son engagement en Christ, le salut qu'il a reçu par la grâce et que cela produise. Et donc, avoir des matériaux qui ont de la valeur et qui ont de la qualité capable de subsister à ces jugements de Dieu qui attend le monde entier. Dernier problème, c'est le péché. C'est ça la question au chapitre 7 de Romains. Depuis l'enfance, depuis l'école de dimanche, on nous a enseigné que le péché, c'est une infraction humaine à la volonté de Dieu. En d'autres termes, le mal faire. Mais Paul parle du péché au singulier dans ce chapitre. Il n'utilise vraiment pas le péché au pluriel. Il parle du péché au singulier pour montrer que le péché, c'est une puissance. Le péché a une puissance de séduction. Il s'infiltre dans l'être intérieur de l'homme et de la femme. Il investit l'être tout entier, le péché. Il circule au-dedans de nos membres, les membres de nos corps, pour produire le venin. Et le venin, ce sont les péchés au pluriel. Chacun de nous sait quel est ce péché-là. Le péché mignon, le péché qu'il chérit. Le péché qui n'est pas prêt à abandonner. Il le voit, mais ce péché-là, il te tuera. Il faut faire attention à ce péché-là. Il te tuera. Vous êtes en train de voir que les gens qui aiment l'alcool, ils sont en train de mourir. Hein? Ah oui. Ceux qui aiment le sexe aussi amer. Parfois honteusement. Vous connaissez des cas. Vous en avez vécu cette année. Même dans les milieux des étudiants. Ton péché te tuera. C'est ce péché dont Paul parle. Il en parle comme un virus. En tout cas, quelque chose qui prend l'être intérieur de la personne au point d'envahir son être tout entier et produire des effets incalculables, avec des conséquences incalculables. Voilà ce qu'il dit. Le bien n'habite pas en moi. Vouloir le bien est à ma portée. Mais non l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Verset 20. Si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est quoi? C'est le péché qui habite en moi. Moi qui veux faire le bien, je constate donc cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la loi de Dieu en tant qu'homme intérieur. Mais dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui ratifie mon intelligence. Ce sont ces péchés-là qui font des ravages, même dans la vie de famille. Au point de la discorde, l'orgueil, tu t'élèves et tu ne veux pas entendre les autres te parler. Même toute une famille peut se mobiliser pour te dire ce que tu fais là, ce n'est pas correct. Tu dis, tu tiens le fait. Le péché est dangereux. J'avais un beau frère qui avait été trouvé avec le diabète et qui aimait beaucoup l'alcool. On lui a interdit, n'a pas compris. J'ai connu là plusieurs personnes qui sont mortes déjà comme ça. Je lui ai dit, tu vas mourir. Tu vas mourir et tu vas laisser ta femme, veuve et tes enfants orphelins. Il a dit, bon, tombe encore quand. Mais il est mort. Tu te volais, on ne te voit pas, mais un jour, on t'attrapera. Tu peux coucher avec des filles, des femmes. Un jour, ça sera publié sur la place publique. Donc il ne faut pas dire le pasteur sait que nous nous buvons. Je ne sais rien. Il faut plutôt désespérer de toi-même et dire je vais en finir une fois pour toutes. Alléluia. Je voudrais vraiment que chacun de nous réfléchisse. Quel est ce péché-là? Baissons la tête dans la prière. Quel est ce péché-là? Quel est ce péché, bien-aimé, qui fait ravage dans ta vie et qui t'empêche de décoller? Depuis combien d'années tu es dans l'église? Depuis combien d'années tu as crié au Seigneur? Et tu es resté un bébé spirituel. Au lieu d'être maître, tu continues à être enseigné par les autres, les choses rudimentaires, terre à terre. C'est la chair qui domine dans ta vie. Et quand elle domine, elle produit le péché. Parce que tu es charnel, vendu au péché. Je t'invite à baisser la tête, il ne faut pas me regarder, de prier pour toi-même. Et si tu veux vraiment que nous puissions prier pour toi, lève-toi. Merci, ma soeur. Lève-toi, ne reste pas assis. Tu es resté bébé, tu veux grandir vraiment, que le Seigneur t'accorde la grâce de toi.